enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le message que vous allez écouter vous est présenté par l'association chrétienne CIV. Centre d'évangélisation Esprit et Vie, dont la vision est d'apporter par l'Esprit de Dieu l'Évangile qui a franchi de toute servitude. Nous espérons qu'il transformera votre vie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. CIV Talence, 244 Avenue de Thouars, 33 400 Talence. Téléphone 09 51 41 31 20 ou au 06 60 49 69 18. Email civ.talence@hotmail.fr. Merci et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
Troisième arme, c'est la paresse. Il va utiliser la paresse.
La paresse.
La paresse. Proverbe 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. J'aime bien ce verset de Proverbe qui dit que un peu d'assoupissement, un peu de sommeil, et la pauvreté te surprendra. La ruine. Les chrétiens d'aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, nous sommes paresseux. Les gens du monde sont plus productifs que nous. Ils travaillent dur pour gagner leur vie. Nous, on veut que tout nous tombe du ciel. On n'a qu'à prier à l'encore, à Baracha, Karababa. La main tombe du ciel comme avec Moïse dans le désert. C'est fini ce temps, bien-aimé. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Et je parle aux étudiants maintenant, mes frères étudiants et mes soeurs étudiantes. Tu peux être étudiant et travailler. Je l'ai fait chaque été. Chaque vacances, j'ai tout fait. J'ai fait téléprospection, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait la vente de lignes téléphoniques, j'ai fait la vente des osmoseurs, j'ai connu la France même avant d'être dans le monde du travail. Tout le temps dans les campagnes, à Blaye, dans la Charente-Maritime, partout, j'allais vendre. J'étais étudiant. Vous comprenez? Donc avec ou sans bourse, financement ou pas, tu peux réussir ta vie. Tu peux réussir tes études. Retrousse tes manches. Prier, c'est bien. Mais travaille aussi. Tu peux vivre tranquille en tant qu'étudiant. Tu loues un petit appartement, un petit studio qui te coûte avec APL. Ça te revient à 170, 200 maximum hein, avec APL. Tu peux par mois gagner au minimum 500 euros si tu ne travailles pas beaucoup. Avec 500 euros, tu payes ton appartement 200 euros. Tu manges avec 300 euros. Tu vis bien. La paresse est rentrée dans l'église aujourd'hui au point que les gens ne font plus d'efforts, non seulement sur le plan social, professionnel, mais également sur le plan spirituel. Cette valeur du travail a disparu. Et le diable est en train d'infiltrer l'église, est en train de gagner les chrétiens à ce niveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons pensé que tout nous viendra du ciel par la prière, en levant les mains vers le ciel. Ça, c'est un point sur lequel on va beaucoup travailler cette année. Parce que la vision de cette année, c'est une vision de conquête et d'implantation. Une vision de conquête et d'implantation. Et voici des points sur lesquels on va beaucoup travailler. Il faut qu'on arrive à régner sur la terre. Et puis vous pensez que quoi? Réussir la vie, c'est quoi? Faire les études. Qui a dit qu'on réussit parce qu'on fait les grandes études? Les grandes études contribuent à la réussite. Je vous dis, 50% des patrons en France n'ont pas leur bac. Statistique économique prouvée. 50% des patrons en France. Et ça, c'est des chiffres qui datent depuis 2005. Donc, certainement, si on revoit les chiffres aujourd'hui en 2008, on doit avoir peut-être mieux que ça. Plus de 50% des patrons en France n'ont pas leur bac. Mais c'est des grands patrons. Ils ont de grosses boîtes. Des PDG, directeurs d'entreprise. Même pour les choses spirituelles, tu es paresseux. Tu as du mal à lire la Bible, à prier. Donc même pour les choses, il y a des gens qui me disent, mais pasteur, comment tu arrives à faire? Tu travailles, tu as la famille, tu as l'église, tu es toujours aussi motivé, comment tu arrives à faire les entretiens, etc. C'est vrai que je reconnais que parfois je dois me reposer. Mais je reconnais que je ne suis pas paresseux. En fait, c'est ça la réponse. Je ne suis pas paresseux. Et l'un des signes de la paresse, c'est quoi? C'est être flegmatique. Un flegmatique, vous savez, nonchalant, lourd, mou. Si tu es paresseux, même dans les choses spirituelles, tu ne pourras pas réussir. Si tu es paresseux, tu ne pourras pas servir Dieu. Surtout vous qui aspirez au ministère de la parole, au micro. Parce que prêcher au micro, ce n'est pas seulement je lis la Bible, je sais lire. Non. C'est qu'il y a des jeûnes et prières, il y a des veillées que tu dois faire. Et puis, il y a aussi des sacrifices. Il faut que tu sois en contact permanent avec les gens. Les relations. C'est dans ces relations-là, les entretiens, les visites, que tu vas trouver les exemples qui vont te permettre d'illustrer tes messages. Parce que c'est là que tu es au cœur des problèmes que les gens vivent, des besoins. Et tu comprends ce qu'ils vivent. Et par rapport à ce qu'ils vivent, tu peux trouver des réponses dans la parole de Dieu. Et pouvoir leur donner des solutions. Si tu ne connais pas les hommes, tu ne peux pas savoir bien prêcher. Alléluia. La paresse. Quatrième arme, l'incrédulité. L'incrédulité. Les chrétiens, aujourd'hui, on a du mal à croire à la parole de Dieu. Je vous le dis. Ce n'est pas parce qu'on lit la parole, on prêche, on proclame, on confesse, on prie en langue. Arrêtez de mentir. Le diable, vous ne pouvez pas le mentir. Il vous voit clair. La preuve, quand on vous met face à la parole, devant une situation, vous devez prendre une décision, vous êtes enclin à décider par vos propres désirs que par la parole de Dieu. Tu mets un chrétien en face d'une situation. La parole déclare que pour te marier, voici les étapes à suivre. Ah, non. Donc, on doit d'abord rester pendant tant de... pendant une bonne période sans se connaître, oui. Sans avoir des rapports sexuels, oui. Ah! Bon, après ça, maintenant, il faut faire tête à tête. Oui. Non. Ils vont partir, ils vont chercher la solution la plus simple. Et comme le monde va proposer cette solution-là, concubinage, pax, etc. Okay? Et les gens ont du mal à faire confiance à Dieu. Oui, tu n'as pas beaucoup d'argent, donc tu ne peux pas te marier. Qui a dit que le mariage, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent? Dieu est injuste pour dire qu'il souhaite que tous les gens se marient. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a que les riches, les gens qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent se marier. Frère, le mariage, ce n'est pas forcément les grandes cérémonies. Tu as aimé un frère, tu as aimé une sœur. Vous avez marché en sanctification pendant un temps. Vous décidez de vous marier. Frère, vous allez à la mairie, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Signez les papiers à la mairie. Vous venez à l'église, le pasteur vous bénit. Enfin, prononce la bénédiction avec le peuple de Dieu. À la fin, Annick et son équipe font une collation. On trinque le verre, vous rentrez chez vous. On choisit samedi. Donc on fait ça samedi. Vers 19h, on a terminé, vous rentrez chez vous, vous avez une longue nuit de noces. Alléluia. Parce que les gens qui ont beaucoup d'argent là, ils se marient, ils font les pipes pour la fête et puis ils rentrent vers 2h, ils sont fatigués. Samedi est même passé déjà, le jour du mariage. Et puis ils ont du mal à venir au culte le matin. Vous comprenez? Toi, tu es encore en forme. Eh oui. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Hein? On a du mal à faire confiance à la parole de Dieu. Et pour cela, on a du mal à obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Ah, tu calcules là. Moi, je gagne, en fait, moi, je suis étudiant, je gagne que 500 euros. Moi, je paie l'appartement, etc. Et tout, tout. Oh, il faut encore sortir 50 euros. Oh, Seigneur, mon Dieu. Pour donner la dîme. Ah, c'est fort, hein. Et quand tu donnes là, c'est dur. Et puis, paraît que même, il faut encore donner les offrandes. C'est même plus que la dîme, en fait, les offrandes. Parce que c'est le fruit de ton amour. Ah, Seigneur, tu sais que je t'aime, hein. Mais là, j'ai fait un effort de donner 50%. Mais tu vois déjà, ça va, quoi. Il t'a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas la bénédiction en abondance. Mais mets à l'épreuve. Fais confiance à Dieu. Donne. Fais confiance. Donne.
et tu seras béni. Alléluia. Et je pourrais citer plein de principes concernant la parole de Dieu qu'on a du mal à appliquer. Beaucoup de principes de la parole de Dieu qu'on a du mal à appliquer aujourd'hui. Il te dit, prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Pourquoi il me dit de prier? Mais parce que je suis dans la souffrance. Pourquoi je suis dans la souffrance? Mais parce que je dois prier. Vous comprenez ça? Dieu a réservé la souffrance pour inciter les gens à prier. Donc prie, tu sortiras de la souffrance, c'est tout. Veillez et priez, vous ne tomberez point dans la tentation. Ah, pasteur, comment faut faire vraiment? C'est dur de résister au péché. Il a dit, veillez et priez. Prie, frère. Lis la Bible. Prie. Donc, il y a des principes tellement clairs et simples que si on fait confiance à Dieu, à la parole de Dieu, on verra le miracle dans notre vie. Mais comme on est incrédule, on a du mal à faire confiance à Dieu. Et on rentre dans les compromis, dans les petits raccourcis, etc. Non. Et quand il y a une montagne devant toi, alléluia, la parole déclare que si tu as la foi comme un petit grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Il n'a pas dit, tu contourneras la montagne. Et nous, devant la montagne, frère, lève-toi. Grégory, lève-toi. Qui est plus grand là? Grégory, hein? Qui est plus grand que Grégory? Qui est plus grand que Grégory ici? Non, Jean-Yves. Non, mais je ne prends pas Jean-Yves aujourd'hui. Je ne prends pas Jean-Yves aujourd'hui. Grégory, non. Qui d'autre? Michael. Michael Lanois. Il est plus grand que toi. 2 cm, je crois. Il a calculé. Michael, viens. Viens, Michael. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que toi. Frère Frédéric, viens un peu, viens. Joan? Bon, allez, on va prendre Michael. Viens, Michael, viens. Vous allez voir. Alors. Voilà, mets-toi là. Toi, tu te mets là. Tu te mets là, voilà. Ouais. Non, tu restes debout. Toi, tu viens derrière lui. Derrière lui. En haut, voilà. Voilà. Ah, c'est ma montagne. Bon, ici, il y avait encore d'autres marches, je vais mettre quelqu'un d'autre en haut. OK? Maintenant, moi, j'ai demandé à Dieu de me donner la batterie là-bas. Mets-toi ici, frère. Batterie là-bas, parce que je suis un bon batteur en gestation, et je la veux, et je prie le Seigneur. Imaginez que la batterie, c'est ma bénédiction. Je prie. Mais seulement entre la batterie et moi, il y a une montagne géante. Parfois même, elle touche. Bon, il n'y a pas encore le plafond, mais enfin. Alléluia. Et moi, je suis là, bon chrétien, je viens à l'église, je prie, etc., je suis content, etc., et je marche vers ma batterie, ma bénédiction, je marche. Voilà, il a bien joué son rôle. Boum, je suis confronté. Vas-y. Et je suis freiné dans mon élan, dans mon zèle, dans ma motivation. Et un jour, deux jours, trois jours, quatre, je suis fatigué. J'ai jeûné, j'ai prié. Je suis fatigué. J'ai récité tous les versets de la Bible, les proverbes, les psaumes. Tout, j'ai récité. J'ai vu le pasteur. Il m'a imposé les mains. Onction d'huile. Je ne passe pas. Alors, je dis, ah, l'affaire là. Mais est-ce qu'il y a vraiment une batterie derrière? Le diable te dit, bon, je vais te montrer qu'une batterie te mène au sommet de la montagne. Ah, la batterie est là. Et tu vois qu'il y a, entre la montagne et la batterie, il y a une courbe là. C'est un petit chemin. Il suffit de faire un petit détour. Tu es de l'autre côté. Vous comprenez? Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser la montagne et je vais contourner la montagne pour aller à la batterie. Et c'est sûr que ça va être plus facile parce que là, je n'ai plus l'embuscade devant moi. Je n'ai plus de barrière et je fonce. Je vais prendre la batterie. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Il me dit, si j'ai la foi, je ne vais pas contourner la montagne. Mais je vais dire à cette montagne, ôte-toi de là. Mais quand je veux dire, oh toi là, la parole là, ce n'est pas forcément que tout de suite ça va partir. Hein. Tu dois résister avec une foi ferme. Oh toi de là. Oh toi de là. Oh toi de là. Et je passe et je prends ma batterie. Alléluia. 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 C'est ça la foi agissante. C'est ça la foi agissante. Merci Michael, merci Grégory. Alléluia. C'est ça.
Mais on est tellement incrédule aujourd'hui qu'on prend la parole de Dieu, on la met de côté devant chaque situation de notre vie, on ne croit plus à la parole de Dieu. On vient à l'église par formalisme, on vient à l'église par religiosité, on vient à l'église par habitude, mais la parole de Dieu, elle est mise de côté depuis longtemps. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui parlent de tout et de rien. Tu peux aller visiter un chrétien, rares sont les cas où il va ouvrir la Bible et on va lire un verset de la Bible ensemble. Rien. Il te parle de tout et de rien. Mais même pas un instant, on va ouvrir la Bible, lire la parole de Dieu ensemble. Rien. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le manque de confiance en Dieu. Le manque de confiance en sa parole. C'est ça l'incrédulité. Cinquième arme, le découragement. Beaucoup de gens se découragent par des épreuves mal vécues, les conflits mal gérés, les objectifs non atteints, les mauvaises pensées, les émotions négatives, les sentiments négatifs. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que quand je parle de découragement, je parle de ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet justement du zèle. C'est la même chose. Si tu es découragé ce soir, Dieu va te restaurer. Alléluia. Le découragement. Hébreux chapitre 12, verset 3 nous dit: considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous voyez comment Jésus a souffert. Vous voyez comment Jésus a souffert. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent et qui vivent des choses pires que vous. Il n'y a pas lieu de se décourager. Vous n'avez pas encore connu le pire. Il y a des gens qui ont connu le pire. Assis s'allongeait et racontait une histoire d'un homme, un jeune homme, fils de pasteur. Il est né fils de pasteur. Tenez-vous bien. Mais il est né, il n'avait pas de bras, pas de pieds. Comme lui-même aime à le dire, une boule de personne. Il a grandi avec cette situation. Imaginez-vous, au milieu des enfants comme lui, à l'école dimanche, à l'école, comment il était traité, comment il était regardé. Fils de pasteur en plus. J'imagine son père et sa mère. Il doit se dire, mais Seigneur, c'est pas possible. Cet enfant n'a pas connu. Non, fils de pasteur. C'est pas que c'est un problème héréditaire, les parents étaient sorciers. Non, je dis bien fils de pasteur. Il est né comme ça. Quelle épreuve. Même pour le ministère de l'homme de Dieu, quelle épreuve. Il a grandi. Il a vécu une enfance difficile, certes. Mais Dieu l'a libéré de tous ses sentiments et ses émotions. Et aujourd'hui, il vit bien son infirmité. Il est devenu un grand homme de Dieu, prédicateur, qui fait feu aujourd'hui dans le monde entier. Il prêche l'évangile. Il prêche l'évangile. Des foules et des foules, des milliers de personnes qui arrivent. Et quand il prêche, devant lui, comme ça, sont alignées des chaises roulantes, des gens qui sont assis sur des chaises roulantes, des paralytiques. Il prie pour eux. Les paralytiques se lèvent, ils marchent. Lui-même, il est là. Lui-même, il est là. Il fait des choses qu'aucun prédicateur aujourd'hui, qui a tous ses membres, n'arrive à faire. Il est titulaire de 5 masters. Il a passé 5 masters. Comment il a écrit? À la place des mains et des pieds, là, il y a comme des petits bouts de doigts ou de pattes. Et avec ça, il tape à l'ordinateur, mais plus rapidement qu'une scénographe. Il a écrit des bouquins, des livres. Même nous autres, là, aujourd'hui, on n'a pas encore écrit des livres. On a deux mains, deux pieds. En fait, quelque part, j'ai honte parce que c'est comme si même je pouvais dire, on est paresseux. Quelqu'un comme ça, il travaille jour et nuit. Il est productif. Il a des sites internet partout. Il est dans les télévisions, les chaînes, partout. Il convertit des cœurs. Il motive des gens. Il est arrivé à faire de cette infirmité une force. Une force. Je n'ai encore rien vécu. Alors, je pense qu'on va projeter ce film-là ici un jour. Vous allez voir. Parce que quand on vous raconte, là, vous ne voyez pas. Mais vous allez voir. Non, tu n'as encore rien vécu, mon frère. Arrête de dire je ne viens plus à l'église parce que je suis découragé, ou bien je ne prie plus parce que vraiment les choses ne marchent pas dans ma vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Tu es là, tu manges, tu bois, tu dors, tu es bien. Il y en a qui n'ont pas à manger. Il y en a qui se disputent un petit pot de riz. Il y en a qui n'ont pas de toit, ils sont dans les rues. et tu dis que tu souffres. Tu n'as pas encore connu la souffrance. C'est là où Dieu a dit à Job, il dit que, est-ce que tu as déjà connu les portes de la mort pour dire que voilà, tu souffres. Tu as connu les portes de la mort. Et qui a créé tout ça? Tu étais là quand j'ai créé le monde, les astres. Oh, bien aimé, on ne souffre pas. Quand tu vois des gens dans des pays fermés à l'évangile, qui se disputent une seule page de la Bible au prix de leur tête, de leur vie. Toi ici, tu es libre, tu peux te balader, tu fais tout ce que tu veux. Et tu dis que tu souffres. Il y en a qui sont dans des pays où il n'y a même pas d'eau. Pour avoir une pluie, il faut attendre peut-être combien d'années. Toi, tu as tout. Tu dis que tu souffres. Même si tu n'as pas d'argent, tu iras voir l'assistante sociale. Et tu dis que tu souffres. Et ce qui est bien en France, c'est quoi? C'est l'égalité. L'égalité des droits. Donc la société ne va pas te laisser à la traîne. Et tu dis que tu souffres. Si tu n'as pas mangé à la banque alimentaire, tu dis que tu souffres. Quelle épreuve tu connais? Il n'y a pas d'épreuve ici. On devait être plus zélé, plus puissant que beaucoup aujourd'hui. Mais comme l'église, les gens sont paresseux, alors notre petite épreuve, on pense à pour une grande montagne. En fait, ce n'est qu'un mirage. Il dit que c'est un mirage. Donc, ne te décourage pas. Le diable veut te faire croire que c'est un lourd fardeau. C'est faux. Sors du découragement. L'avant-dernier point, l'arme de l'influence. Le diable influence les chrétiens et l'Église. Vous influence par des sentiments. Alors, j'ai résumé ça aux cinq sillons que j'ai enseignés ici. La suppression. Il vous supprime les sentiments positifs et la motivation. Il vous supprime ça. Comme ça, vous n'êtes plus motivé. Et comme tu n'es plus motivé, quand tu viens même, tu cherches à te marier. Dès que tu rentres là comme ça, tu arrives, on voit sur ton visage que tu es un homme triste. Quand la soeur en crise est regardée, franchement, quelqu'un comme ça, je n'en veux pas dans ma vie. Parce que les soeurs aujourd'hui, les femmes aujourd'hui veulent épouser des hommes joyeux, dynamiques. Et inversement, les hommes veulent épouser des femmes agréables. Ok? Salomon a dit que mieux vaut habiter sous le toit d'un angle, sous l'angle d'un toit, que d'être avec une femme querelleuse. Et moi j'ajoute une femme triste. Pas du tout épanouie. Non, attends. On ne se marie pas pour être heureux. On ne se marie pas pour être épanoui. On se marie pour rendre heureux. Ça c'est clair. Donc je ne vois pas qui va t'épouser. Par pitié, comme tu es triste, ça, je vais la prendre. Je vais le prendre, vraiment, le pauvre. Il te regarde et dit, non, moi, j'ai de mes problèmes à gérer. S'il faut encore ajouter ça. Donc, débrouille-toi à être épanoui avant de venir dans le mariage. Et si tu es joyeux, motivé, épanoui tous les jours, tu trouveras facilement une femme et un mari. C'est une clé, c'est la vérité, c'est la bénédiction éternelle. Alléluia. Donc, débrouille-toi. L'histoire d'or, voilà, mon oncle m'avait fait ça, laisse ça de côté. Oh, voilà, j'ai connu une enfance difficile. Ma chérie, d'accord, c'est passé. Ça, c'est du passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oublie ton oncle. Oublie ton grand-père, ton père qui t'a fait souffrir. Hein? Vraiment, quand je vois quand quelqu'un me parle comme ça, vraiment, ça me rappelle mon père. Oublie ton père. Ou bien, vraiment, ma mère. Mais... Il y a une soeur, un jour, elle était déjà mariée. Et son mari, tout le temps, n'était pas toujours content de la cuisine de sa femme. Et c'était un sujet de dispute à la maison. Et devant les amis, il n'hésitait pas à le manifester. Et puis un jour, comme ça, il sort ça et dit, non, voilà, vraiment, tel repas, vraiment, quand ma mère préparait ça. Ah, vraiment. La femme, elle m'a regardé. Là, ça m'a dit que, prends tes bagages, va épouser ta mère. Mais elle était blessée. Comment tu peux dire ça? Quand ma mère prépare un tel repas, même là, non, va épouser ta mère, tu vas manger tous les jours. Et les gens vivent dans leur passé. Sortez de votre passé, bien-aimé. Il y a des bénédictions qui sont bloquées aujourd'hui parce que vous êtes encore dans votre passé. Et quand le frère voit ça, la soeur voit ça, j'en veux pas. Fais le travail, tu verras, ça va s'accélérer. Les portes vont s'ouvrir. Dernière arme, parce qu'il faut qu'on prie. Alléluia. Je sens le besoin maintenant en ce moment-là. L'onction de prière est déjà descendue. Je sens que le diable aujourd'hui, vraiment là, il dit, ça y est, je suis dépouillé là. Tous mes secrets sont dehors. Ah, l'enfant là, vraiment. Qui lui a dit ça? Le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La dernière arme. Alors, avant de passer à la dernière arme, un point important. OK? Dans l'influence là, OK? J'ai parlé de la suppression. Il y a la confusion, l'oppression, la dépression et la pression. Et puis, une autre nature d'influence, c'est la sorcellerie. OK? On aura l'occasion d'en parler un jour parce que je vais faire un enseignement sur la sorcellerie dans l'église. L'esprit de Jézabel. OK? Donc, le diable utilise ça aussi pour affaiblir les chrétiens et détruire l'église. OK? Donc, maintenant, je fais attention. En entretien, là, je fais très attention. Ah oui, maintenant, il faut attention. Parce que les paroles mielleuses, là, et les gestes compliqués, là, quand je vois esprit de Jésus, ou nom de Jésus, je vais raconter une histoire. Il y a un frère, on l'a raconté l'histoire, je vais finir, hein, l'histoire de Jézabel. Il dit, oh, Jézabel, ça, c'est avec Élie, bon, Jézabel. Et il va faire la délivrance tout seul à une sœur en Christ. Parce qu'il estime qu'il avait la double onction d'Élie. Donc il peut affronter Jézabel sans problème. Les frères l'ont dit, on peut t'aider. Il dit, non, c'est pas grave. Il s'est enfermé avec la soeur quelque part. Bon, heureusement que les frères n'étaient pas allés bien loin, ils étaient là en train de parler. Gens qui sont là-bas et puis les frères sont ici. Les démons l'ont montré qui est Jézabel. Au départ, il était tout feu, tout flamme. Oh non, Jésus, sors! Les démons crient, sors! Il était tout content là. Jézabel s'est manifesté. Au travers des esprits des sirènes des eaux. Les démons ont déshabillé la sœur. Il était tout seul, complètement déshabillé. Le frère qui était tout feu, tout flamme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les frères là-bas, ils entendent maintenant comment le volume commence à baisser. Au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la fin, il a dû appeler au secours aux frères. Les frères, venez! Parce que l'esprit de Jézabel a sauté sur lui. Imaginez la suite. À bon entendeur. Dernière arme. L'arme de la division. Donc les frères zélés, là, faites attention là. Rempli du Saint-Esprit, c'est bon. OK? C'est compliqué la fête de délivrance là, je vous assure. L'arme de la division. OK? Le diable va utiliser l'arme de la division, diviser pour mieux régner. Et pour savoir que là, le diable fait rentrer les chrétiens ou l'église dans la division, les symptômes c'est quoi? Les critiques, les calomnies, les murmures, la haine, les jalousies, l'esprit de concurrence, de compétitivité, de vraiment tout ça là, les rancœurs, le manque de pardon, l'incompréhension, le frère dit telle chose, toi tu comprends dans l'autre sens. Mauvaise interprétation, les préjugés, les fausses accusations, le manque d'amour fraternel et aussi les chocs culturels. Les chocs culturels, OK? Une église multiculturelle. Donc, d'un côté, il y a les Blancs qui arrivent, il y a les Noirs qui arrivent, les Africains, les Antillais, les Français autochtones, les Guadeloupéens, les Ivoiriens, les Congolais, les Togolais. Et on se croise. Donc, il y a un choc, il y a des chocs de culture. Et c'est un grand challenge pour une église qui a une vision multiculturelle. Parce que le diable va les attaquer au niveau des chocs culturels. C'est là où on a besoin du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit. Je pense que l'église de Corinthe devait avoir ce problème. Parce qu'à toutes les églises, l'apôtre Paul dit l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et il s'arrête là. Et quand il arrive à Corinthe, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Je pense que l'église de Corinthe va avoir un défi au niveau de la vision multiculturelle. Pour se comprendre, ce n'est pas évident. Mais quand le Saint-Esprit est au centre, oh bien aimé, et c'est un grand challenge pour nous aujourd'hui de mettre le Saint-Esprit au centre de l'Église. Je ne demande pas aux Africains de changer leur culture. Je ne demande pas aux Français de souche métropolitaine, ok, de changer leur culture. En tant que pasteur, je ne demande pas aux Guadeloupéens, aux peuples des îles de changer leur culture, ou encore aux Congolais, aux Ivoiriens de changer leur culture. Ce n'est pas ce que je vous demande. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et d'être conduit par le Saint-Esprit pour savoir discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Dans les agissements, dans les comportements, dans les paroles, dans les attitudes, dans les regards, dans la gestion, dans la posture, dans la façon de marcher, dans la façon de faire les choses. Ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça, c'est au-dessus de toutes les cultures. Ça, c'est au-dessus de toutes les cultures. C'est la culture du royaume de Dieu, la mentalité du Saint-Esprit. Alléluia. Et une église qui va vaincre et qui va neutraliser le diable, c'est une église qui va réussir dans la diversité. Qui va réussir dans la diversité culturelle et faire de cette diversité culturelle, en fait, une richesse et une force. C'est-à-dire qu'en fait, les Français apportent, les Africains apportent, les peuples des îles apportent, les Américains apportent, les Asiatiques apportent, et nous faisons de toutes nos cultures une richesse pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en fait, le Saint-Esprit nous amène à comprendre ce qui n'est pas de Dieu dans nos cultures et à bannir de nos cultures ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est un travail que nous devons tous faire. On a tous des mauvaises choses dans nos cultures. Et il suffit de lire la parole de Dieu et de confronter notre culture à la parole de Dieu. Nous verrons. Jésus a parlé du levain des pharisiens, des œuvres des Nicolaïtes. Mais c'est quoi tout ça? Ce sont les cultures des hommes, les traditions des hommes qui étaient contraires à la parole de Dieu, qui étaient opposées aux œuvres du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, voici notre défi face à l'ennemi. Il va nous attaquer et il veut nous détruire en passant par les chocs culturels. Alléluia. Alléluia. Oh, assis au salon, je leur ai dit, ce que j'aime en Europe et en Occident, c'est qu'ils ont la montre. Ils ont inventé la montre. Mais en Afrique, on a le temps. Et donc, je leur ai dit, alors, André Larue et nous, on a fait une bonne affaire. On s'est rencontrés, il a amené la montre et nous, on a amené le temps. OK? Alors, la conséquence, c'est quoi? C'est que, avec la montre, on commence à l'heure. Et on se donne l'objectif de finir à l'heure. Mais avec le Saint-Esprit, on commence à l'heure. OK? Et puis, on finit quand le Saint-Esprit le veut. Un bon mariage, n'est-ce pas? Si on a dit qu'on finit le culte, la réunion, la veillée à minuit, et que le Saint-Esprit a travaillé jusqu'à 23 heures, on arrête, on finit à 23 heures, on rentre chez nous. OK? Le Saint-Esprit gère le temps. Et si le Saint-Esprit finit à minuit, on finit ça à minuit. S'il finit à 1 heure, on finit à 1 heure. Mais au moins, on commence à l'heure. Parce que le Saint-Esprit est toujours à l'heure. Et Dieu est toujours à l'heure. Alléluia. Et ça, c'est très important. Donc, on met le Saint-Esprit au centre de nos cultures. On ne privilégie ni la culture de l'un, ni de l'autre, mais on met le Saint-Esprit au centre de nos cultures. Parce qu'il n'y a aucune culture qui soit supérieure. C'est la culture du royaume qui est supérieure. Alléluia. Parce qu'en agissant ainsi, celui qui n'est pas souvent à l'heure sera délivré du manque de ponctualité. Il sera à l'heure. Par contre, celui qui n'est pas habitué à l'onction sera aussi délivré. Alléluia. Et je pourrais prendre tant d'exemples. Et c'est un véritable défi pour suivre les chocs culturels. Et de l'église à Bordeaux, et de l'église en France. On n'est pas ici pour faire une église des Noirs ou des Africains. On arrive le pasteur africain et puis tout le monde est africain. Et c'est un grand défi, pas seulement ici en France, mais dans le monde entier. Remarquez bien, moi j'étudie les grands ministères aujourd'hui. Vous prenez le ministère de Clefo Dollard, dans son église il n'y a que des Noirs. Très peu de Blancs. Et c'est un grand ministère. On prend le ministère à Londres, on prend le ministère de Matthew Ashimolo, plein de Noirs, très peu de Blancs. Ok? On prend maintenant le ministère de Benny Hinn, il y a plein de Blancs, très peu de Noirs. Et c'est une coloration mondiale. Là où il y a des pasteurs blancs, il y a plein de blancs. Là où il y a des pasteurs noirs, il y a plein de noirs. Bien-aimés, ça c'est pas la mentalité du royaume de Dieu. C'est le piège du diable. C'est une œuvre du diable. Et les gens pensent qu'ils ont des grandes églises, ils ont des grands ministères. Mais c'est faux, c'est une erreur. C'est une erreur. Et moi, je n'aimerais pas leur ressembler. Quand je lis leur ministère, j'ai bien le Seigneur pour leur ministère. Je dis, moi Seigneur, je vais les blancs, les noirs, les jaunes, tous les peuples de toutes les races, comme dit l'Apocalypse, alléluia, qui brandissaient des branches de palme et qui venaient, qui disaient, oh, alléluia, gloire à Dieu, louange à Dieu au plus haut des cieux et louer le Seigneur ensemble dans la présence de Dieu, alléluia. Et ça, c'est un grand défi pour nous, surtout en tant que pasteur africain, surtout en tant que peuple africain, de pouvoir effectivement sauver les autochtones, d'apporter un message qui rassemble les peuples. Les blancs ont amené l'évangile en Afrique. Dans les derniers temps maintenant, le Seigneur est en train de rendre aux blancs ce qu'ils ont semé. Ils nous ont amené la parole. Maintenant, eux aussi, ils ont besoin de la parole. On leur amène la parole. On leur amène la parole qu'ils nous ont amenée. C'est leur récompense. Et quand ils sont venus en Afrique, les blancs, ils ont appris nos langues. Quand ils sont allés en Chine, ils ont appris le chinois. En Afrique, ils ont appris à parler. Il y a des Bibles qui sont écrites même dans les langues vernaculaires par les blancs. Mais pourquoi nous, les Africains, on vient ici en France, on ne veut même pas apprendre à parler correctement français. Et on va prêcher l'évangile en Lingala. Qu'est-ce qu'il y a? Pambola, Pambola. Hey, frère Nangai, sœur Nangai. C'est quoi l'histoire? On chante les louanges toujours en langue vernaculaire, toujours. Kolo Yesu, Kolo Nzambe Nanguya. Et on est tout content et tout ça. Et les frères blancs, ils sont au milieu de nous. Bon, par amour fraternel, ils vont aussi danser. Mais ils ne comprennent rien. Expliquez-leur au moins. Expliquez au moins. Expliquez. Oh, alléluia. Vous comprenez? On a un grand défi. Les chocs culturels. Et le diable passe par ça pour détruire l'église. Et puis, les blancs s'en vont. Les blancs s'en vont. Les blancs s'en vont. Et puis, on reste entre nous-mêmes les noirs. On en fait. On dit qu'on est une église, une grande église, mais il n'y a que les noirs, très peu de blancs. Et puis, on dit qu'on est une grande église, alors qu'on est une diaspora. Non, c'est une diaspora qu'on est en train de faire, ce n'est pas une église. C'est une diaspora. La négritude. On doit casser ça, je vous assure. Je vous ai, aujourd'hui, je vais dépouiller. Et moi, j'ai commencé à dire ma femme, comme elle est vraiment très... Ma femme, elle est très intelligente. Hein. Non, mais c'est sérieux. Elle est plus intelligente que moi. Elle a fait des études encore plus poussées que moi. Et en ce qui concerne la culture générale, elle est assez forte. Donc maintenant, je m'informe auprès d'elle. Je dis, bon, là, je n'ai pas eu le temps. Là, qu'est-ce qui s'est passé dans les informations? Elle dit, moi, elle commence à me parler de telle chose. Je dis, ok, d'accord, je note. Et je commence à fréquenter. Je commence à avoir d'autres relations avec mes frères français. Et je comprends que, le Seigneur m'a mis dans un monde vraiment. Je suis le seul noir parmi tous les formateurs dans mon entreprise. Donc j'en profite. Voici un champ d'action. Et je m'informe sur leur culture, je m'informe. Et il y a quelqu'un qui m'a donné un documentaire très intéressant que je suis en train d'exploiter aujourd'hui sur la crise financière. J'ai dit, ça c'est intéressant pour les messages. Et je suis en train de faire des recherches sur l'histoire de la France. Parce que bon, j'ai demandé à mes frères français à l'église, mais racontez-moi un peu l'histoire de la France. Oh pasteur. Non, maintenant je vais sur Internet, je cherche l'histoire de la France. Je vais connaître. Cette année, je vais changer la qualité de mes messages. Parce que la connaissance, la parole de Dieu, c'est bien. La révélation, c'est bien. L'onction, c'est bien. La culture, c'est quelque chose. Parce que quand tu parles, j'ai été amené à prêcher dans une pastorale, ici à Bordeaux, la Marche pour Jésus. Il y avait plein de pasteurs français. Quand j'ai ouvert ma bouche et que j'ai parlé local, depuis ce jour, beaucoup de personnes ont changé leur image. Leur conception de ma personne. Mon image a changé. Alléluia. Aujourd'hui, quand ils parlent avec moi, ils ne disent plus l'église africaine. Non, ils parlent de l'église Cive. Parce que j'ai parlé des papillons.
J'ai parlé de la montagne des Pyrénées. J'ai parlé du fromage. J'ai parlé... Oui. C'est ça qui, c'est ce qui est évocateur chez eux. Donc, nous devons intégrer leur culture, comprendre ce que la parole de Dieu est en train d'enseigner par rapport à leur culture et leur prêcher ça. Si on n'arrive pas à le faire, le diable nous a eu. Par quoi? Par l'arme des chocs culturels. Donc, ça devient une barrière. On ne peut plus se faire comprendre. On ne peut plus, ils ne peuvent plus comprendre le message de l'évangile. Et donc, conséquent, ils ne se convertissent plus et ne sont pas délivrés. On a échoué. Quelqu'un me comprend? On a échoué. Donc, mes frères français, si vous avez de l'actualité autochtone, je suis preneur. À 1 euro, à 2 euros, à 3 euros, j'achète. Acclamons le Seigneur.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.